Rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est rencontre. Le plaisir d'une rencontre ce dimanche matin avec Véronique Riffel. Bonjour.
Bonjour Samia, bonjour à toutes et tous.
Merci d'être venue ce dimanche matin nous présenter Al Musica, voix et musique du monde arabe. C'est le titre de l'exposition qui a commencé à la Philharmonie de Paris, au lieu de la musique, et qui va se dérouler jusqu'au 19 août. Alors on a bien le temps, chers auditeurs et auditrices, d'aller voir cette exposition que j'ai eu le plaisir de voir en ouverture et qui nous raconte toute cette histoire, tout ce parcours musical et vocal du monde arabe. Alors vous êtes, Véronique Riffel, la commissaire de l'exposition. Ça veut dire que c'est à cause de vous et grâce à vous qu'on a une très très belle exposition dans ce haut lieu de la musique classique à la Porte de Pantin. Véronique Riffel, on va vous présenter quand même. Être commissaire de l'exposition est une chose, mais vous êtes commissaire indépendante d'exposition. Vous avez réalisé de nombreuses expositions. Votre travail est souvent autour de l'art culturel du monde arabe, du Moyen-Orient et d'Afrique. Vous avez été directrice pendant plusieurs années de l'Institut des cultures d'islam à Paris. Ensuite, vous avez quitté Paris. Vous vous êtes envolée vers Alexandrie. Vous avez dirigé l'Institut français d'Alexandrie, où vous avez là aussi commis de très belles expositions. C'est votre fibre. Et vous avez aussi publié un livre absolument magnifique qui s'appelle Islamania, de l'Alhambra à la Burqa, histoire d'une fascination artistique qui avait été publiée aux éditions Beaux-Arts. Voilà pour vous présenter donc votre passion du monde arabe. Quand on s'appelle Véronique Riffel, elle vient d'où?
C'est une très bonne question. Je dirais qu'elle vient de mon enfance. J'avais des parents qui travaillaient avec des travailleurs immigrés. Et comme ils s'entendaient bien, on était invités chez eux souvent, notamment pour des ftours. Et à cette occasion, j'ai découvert la nourriture, notamment d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Nord. Ouais. Et remarque d'Afrique de l'Ouest aussi, parce qu'il y avait aussi des ruptures de jeunes de différents pays. Et j'ai découvert la musique, et j'ai découvert la langue, et je crois que ça a bercé un peu mon enfance de façon... on parlait pas tellement à cette époque-là de communauté, donc c'était pas souligné, mais ça faisait partie...
Voilà,
c'était naturel. J'ai pas eu un rapport exotique, orientaliste avec les cultures arabes, c'était plutôt naturel. Et puis plus tard, quand j'ai fait des études, je me suis toujours un peu intéressée à ce qu'on m'apprenait pas à l'école, donc j'allais voir un peu de côté. Et là, je me suis intéressée à la littérature égyptienne, algérienne, marocaine, tunisienne et autres. Et c'est comme ça que je suis rentrée dedans.
Vous êtes rentré dedans par la littérature et par ce qui va nous amener à échanger et partager ce dimanche matin notre rencontre, c'est au travers la musique, au travers les voix, au travers toute cette diversité à la fois vocale, les voix du désert, les voix de l'exil, les voix du religieux, les chants religieux et autres. Voilà, c'est ça, la chanson. Tout se déroule dans l'exposition. On entre déjà dans l'exposition maintenant, Al Musica, à la Philharmonie. Tout se déroule depuis la porte que l'on pousse pour rentrer dans l'exposition jusqu'à la fin avec les chants de l'exil, autour de justement cette vocalité, ces paroles et ces sons. C'était important pour vous quand vous avez conçu toute cette conception de l'exposition que vous nous proposez à la Philharmonie. C'est du plus lointain que résonnent les mots et les voix et le son jusqu'à l'actualité.
Oui, effectivement, on n'a pas choisi de parler uniquement de la période contemporaine, par exemple, qu'on connaît un peu mieux peut-être, pour remonter le fil jusqu'à la période pré-islamique, qui est peut-être une période moins connue, puisque justement... à l'école, peut-être que les gens l'ont moins apprise pour différentes raisons politiques, religieuses et autres. Or, il y a un riche répertoire à la fois poétique et musical qui s'épanouit dans la péninsule arabique à l'époque pré-islamique. Et ça semblait important de dérouler tout ce fil, le fil de cette histoire, pour bien comprendre ses origines et puis pour comprendre qu'il y a un fil conducteur depuis la période antique jusqu'à aujourd'hui qui est effectivement, comme vous l'avez souligné, l'importance de la voix, qui est aussi l'importance de la poésie, l'importance du rythme, ce côté aussi très minimaliste qu'on retrouve au départ, et puis cette intense émotion appelé Tarab, qui ne quitte pas les musiques arabes des origines à nos jours.
Alors, faire un travail comme celui-là, en profondeur de la musicalité, de la voix, c'est quasiment du travail ethnomusicologue, non ?
Oui,
il faut de la recherche, il y a toute une recherche.
Alors, dans ce sens-là, effectivement, il y a un travail d'ethnomusicologie. Et là, j'ai pas travaillé toute seule, hein. J'ai travaillé juste précisément avec des musicologues spécialistes des musiques arabes, avec des musiciens aussi. Mais je dirais pas que c'est une exposition ethnomusicologue parce que
on pourrait penser qu'elle serait pas accessible alors qu'elle est évidemment complètement.
Déjà, elle est vraiment accessible à tous les âges, tous les degrés de connaissance, à la fois des cultures arabes et de la musique. Donc c'est vraiment une découverte et un approfondissement en même temps pour ceux qui connaissent. Et j'emploierai pas l'expression ethno parce que elle peut renvoyer à l'idée qu'on va découvrir des musiques exotiques, lointaines, savantes. Or, on met plus l'accent sur ce qui nous rapproche, ce qui rapproche les musiques arabes du contexte français dans lequel il est présenté. Donc on les présente comme des musiques familières. On se rend compte que tout le monde écoute des musiques arabes, tout le monde a sa conception des musiques arabes qui ne va pas être la même que son voisin. Et c'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui font connaissance aussi dans l'exposition et qui échangent leur sensibilité, leur découverte, etc. C'est d'ailleurs à un moment mis en scène dans l'exposition puisque j'avais, pour montrer l'importance des réseaux sociaux, j'avais demandé à des amis ou dans mon entourage quelles étaient les musiques arabes que les gens écoutaient. Et donc, c'est dans un dispositif YouTube à la fin où on partage des découvertes, des coups de cœur, des choses un peu incongrues. Donc voilà, dans ce sens-là, c'est pas une exposition ethnomusicologique parce que c'est une exposition vraiment pour tous.
Oui, moi je la situais pas comme une exposition ethnomusicologique, mais je voulais dire que ce travail de précision, et c'est tout à votre au succès de l'exposition, c'est qu'on a aussi cette histoire lointaine de la musique qu'on pourrait aussi découvrir dans ce sens-là.
On voyage dans les différents pays qui composent le monde arabe. J'ai parlé de la période pré-islamique, on parle bien sûr aussi de la naissance de l'islam. Est-ce que ça a changé ou pas la pratique musicale dans la péninsule arabique? Après, on traverse les différents califats, califat des Omeyyades, califat des Abbasides, on va même faire une incursion chez les Fatimides, et puis en Andalousie. Donc quand les Omeyyades se sont réfugiés à la cour de Cordoue, et là c'est tout le développement de la musique arabo-andalouse qui s'est ensuite épanouie aussi au nord de l'Afrique, dans les différents pays qui composent le Maghreb. Donc on fait tout ce voyage-là, et puis après on va plus loin aussi en Afrique où on découvre les musiques issues de l'esclavage, les musiques gnawa, stambali, le diwan en Algérie.
Le diwan de Béchar.
C'est une vraie découverte. Et puis après on va en Égypte à la période de la Nahda, de la renaissance culturelle et politique. Et là on se rend compte qu'il y a une vraie... c'est le moment véritablement de la création d'une musique pan-arabe qui va contribuer au rayonnement du monde arabe après l'effondrement de l'Empire ottoman et des empires coloniaux. Donc on fait tout ce voyage à la fois dans le temps et dans l'espace.
Alors dans l'espace, il y a un joli découpage d'ailleurs dans l'espace, puisque on entre dans des installations à la fois. J'ai le souvenir de ce premier espace où il y a au-dessus de nos têtes des bendirs, des tambours, des tambourins. Enfin, il y a tout un artistique musical calligraphié. Les tambours sont calligraphiés, ils le sont souvent, ou alors même si des fois en calligraphie en arabe, mais des fois une calligraphie latine aussi, puisqu'il y a aussi des calligraphies latines. Et puis dans les murs ici et là, on se branche un écouteur et puis on saisit un extrait d'une musique aussi. Chacun peut piocher.
Composer son propre voyage. Et puis, comme vous le dites, il y a cette très belle scénographie imaginée par Mathalie Crassé qui permet, c'est ni Aladdin ni Walt Disney, on n'est pas dans un univers de reconstitution un peu en carton-pâte. C'était pas l'idée. L'idée, c'était plutôt de montrer la contemporanéité de ces cultures et de ces espaces en proposant des traductions d'aujourd'hui. Mais on traverse un désert, on traverse une ville arabe, on traverse un palais médiéval, une zaouïa africaine, un cinéma égyptien, un café de Barbès, une ville trépidante d'une capitale arabe d'aujourd'hui. Donc on est dans ces différents espaces, vus à travers le regard d'artistes arabes contemporains. Donc c'était important de sortir des représentations fantasmées des Européens, mais rentrer vraiment dans la création arabe.
C'est quoi les représentations fantasmées?
Bah, on va souvent, on a, les musiques arabes font souvent l'objet d'une réduction. Les musiques et les cultures, à la danse
du ventre. La danse du ventre, voilà. Mais quand on arrive dans l'espace de l'Égypte, il y a cette représentation dans l'exposition, parce qu'elle existe aussi.
Voilà,
elle n'est pas que celle-là, c'est
est,
ce que vous avez voulu aussi.
Elle est réappropriée par oui. les artistes, dont c'est la culture, en fait. Et ça, c'était important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nier que ça existait, bien sûr, ça existait, mais de le voir à travers, sans filtre.
Les danses du ventre de Samia Gamal, les chansons langoureuses, Abdel Halim Hafez.
On voit Samia Gamal, d'ailleurs, dans le cinéma égyptien.
Ouais. Oui, parce qu'il y a des séquences de.
On voit
de,
aussi
de
la films. Belle Asmahan, cette princesse druze qui malheureusement n'a pas pu avoir la carrière qu'elle aurait pu avoir puisqu'elle a été tuée à 27 ans. C'était la grande rivale d'Oum Kalsoum. C'était aussi voilà, l'idée de montrer qu'il n'y a pas que Oum Kalsoum. Alors bien sûr, on lui fait la part belle, d'ailleurs, elle est sur l'affiche de l'exposition. Un peu. Dans des tons pop, donc un peu mise au goût du jour, mais on voit qu'à côté d'Oum Kalsoum, il y avait beaucoup de grandes stars. Voilà, Samia Gamal, effectivement, pour la danse, mais aussi Leila Mourad, Sabah.
Ah oui, Sabah. Et puis ces hommes aussi qui ont chanté avec Farid
Al-Atrache,
c'est ça.
Farid
Al-Atrache.
Et
avant d'arriver dans cet espace. Égyptien, on va le dire comme ça, il y a d'autres espaces. Moi, je me suis longtemps arrêtée dans l'exposition sur les musiques religieuses. Je trouvais qu'il y avait une belle installation dans cet espace où il y avait, on voyait des films avec des chants religieux. Il y avait, voilà, parce que ça aussi, c'est une sonorité, là, le chant religieux.
Alors, il y a toute une partie, effectivement, sur la spiritualité.
La spiritualité,
aussi.
Oui, plus.
Le soufisme. Comment la musique a pu être considérée et l'est toujours aussi pour certains comme une voie d'accès au divin. Et il y a en effet une très belle installation vidéo de Yazid Oulab, un artiste algérien qui vit à Marseille, qui présente des volutes d'encens qui vont vers le ciel et qui sont accompagnées par des incantations, des chants soufis de sa confrérie Alaouia Mostaganem.
Véronique Riffel, elle nous parle passionnément de cette exposition Al Musica qui se tient actuellement à la Philharmonie de Paris. Et on la retrouve dans un instant et nous parlerons de ce très très beau livre qui est le catalogue de l'exposition.
Rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons notre rencontre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Véronique Riffel. Elle est commissaire de l'exposition qui se tient actuellement à la Philharmonie de Paris, qui s'appelle Al Musica. Et accompagnant cette exposition, il y a un très très beau catalogue qui s'appelle Al Musica, Voix et musique du monde arabe. Ce livre est une coédition Philharmonie de Paris et les éditions La Découverte et qui restitue finalement tout le déroulé qui se trouve dans l'exposition, à la fois en images et puis en texte, hein, qui sont les musiques du Moyen-Orient, patrimoine en danger, ça aussi c'est important. Il y a à la fois le contemporain et l'actualité vive de ce que vit le monde arabe, puisqu'il y a aussi des séquences autour, une séquence autour de la Syrie, des révolutions arabes, ça c'est le présent. On a parlé du passé avec tout ce parcours du passé, mais voilà, et puis en découvrant le livre, il y a le souvenir, et je le revois dans le livre, tout un mur de cassettes. Mm-hmm. Ça, c'est important, la cassette hein, dans le monde arabe. Oui. La cassette sous le manteau, la cassette piratée, la cassette, je dis le monde arabe, l'Afrique n'est pas loin. Donc c'est, voilà, toute cette histoire à la cassette, c'était important. C'est très beau, ce mur, il donne quelque chose de contemporain, mais tellement, tellement ancré dans les musiques pour ceux qui aiment la musique arabe, c'est d'avoir ces cassettes. Moi, j'ai des tonnes de cassettes de chanteurs du Maghreb.
Ouais, j'aurais dû vous les demander, en fait, pour.
Puis j'ai des pochettes de 45 tours. Oh, mais vous avez eu ce qu'il
faut. On en fera une autre.
Oui.
Mais effectivement, en fait, il y a deux œuvres qui renvoient à l'importance de la cassette dans l'écoute des musiques arabes. Il y a celle que vous mentionnez, qui est une très belle œuvre d'une artiste saoudienne. Donc c'est intéressant aussi parce que c'est vrai qu'on connaît moins l'Arabie saoudite sous l'angle artistique. Il y a une artiste qui s'appelle Mara Malour, donc une femme, qui a créé... Effectivement, elle a pris les plateaux qui servent normalement pour accueillir la pâte à pain, pour faire du pain. Et elle en a fait des cadres de tableaux, picturaux, en guise de matière picturale, en guise de peinture. Elle a utilisé des cassettes qui forment des motifs, qui forment des lettres aussi. Et bon, en l'occurrence, ces cassettes sont faites de récitations du Coran. Donc, c'est aussi pour montrer en Arabie Saoudite l'importance, dans le paysage sonore de ces récitations du Coran, qui sortent aussi bien des petites échoppes que des taxis, etc., qui envahissent vraiment l'espace urbain.
Puis qui a été détourné d'une certaine manière.
Oui, c'est ça. Parce c'est ironique en fait.
Oui, oui, voilà.
Justement, ouais. C'est une façon de dénoncer aussi un peu l'omniprésence du religieux et. Mmh. Et de s'en faire le témoin. Voilà, donc ça, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une œuvre qui appartient au Centre Pompidou à Paris. Donc on voit que de plus en plus les musées français, européens, occidentaux collectionnent des œuvres d'art
d'artistes du monde arabe.
Voilà. Donc, c'était aussi l'occasion de le montrer aussi, cette exposition. Parce que par exemple, l'année dernière, on a beaucoup parlé de l'Afrique à Paris avec des expositions comme Afrique Capitale, comme les expositions qu'il y a eu à la Fondation Vuitton, celles qu'il y a eu à la Fondation Cartier. De photographie, mais il y a aussi une création très importante dans le monde arabe, à la fois de la part d'artistes qui vivent dans les diasporas, mais aussi qui vivent encore dans le monde arabe, et c'est important de les mettre en avant. Donc il y a cette œuvre, et puis il y a aussi l'œuvre de Katia Kameli, qui s'appelle Yaraya, qui est dans une petite salle un peu à part, comme le cinéma égyptien, et comme l'œuvre de Yazid Oulam, qui est dans une petite salle à part, et qui parle de la grandeur et de la décadence du rail. On voit en fait un jeune homme qui se promène entre Oran et la Goutte d'Or. On ne sait plus un moment
où on est. Si on est à Oran ou à la Goutte d'Or, je revois cette.
Et puis en fait, il a encore un Walkman, donc il écoute ses cassettes.
Appuyé sur un mur.
Il est resté habitué et usagé de ses cassettes. Et donc il cherche des boutiques de cassettes. Comme il y en avait énormément
avant, Barbès.
À Barbès notamment, à Oran bien sûr. Et bon, maintenant souvent les rideaux de ces boutiques sont fermés, c'est des rideaux en fer. Et donc il est là avec ses écouteurs et les rideaux de fer fermés servent d'écran de projection de son imaginaire. Donc on voit apparaître Cheb Hasni ou Cheikh Remiti, voilà ces grandes figures Et en même temps, il y a un petit message d'espoir, puisqu'à un moment, le rideau se relève,
oui.
Et là, il va prendre un petit café. Donc, c'est une invitation aussi à aller prendre un petit café à côté, puisqu'on a reconstitué un petit café de Barbès, avec des beaux portraits Harcourt de musiciens de l'exil, avec des scopitones.
Absolument, on y reviendra. Peut-être que, en ouvrant le livre à nouveau, avec tous ces chapitres sur des chapitres plutôt très développés sur cette mémoire des musiques. Alors oui, là il y a les musiques de l'exil, vous venez d'en parler, mais on y reviendra. Mais la mémoire troublée des musiciens juifs arabes, qui était aussi une constante, et encore aujourd'hui, on parle beaucoup de en Algérie ou au Maroc des musiciens juifs arabes qui sont quand même dans l'histoire patrimoniale du Maghreb avec ces musiques judéo-arabes. on peut les appeler, j'allais presque dire comme on veut, ou judéo-arabes, ou juifs arabes, mais en tout cas, c'est, elles appartiennent aux deux.
Elles font partie d'un patrimoine partagé.
Partagé, absolument, oui. Et là aussi, il y a une séquence autour de ces musiques dans l'exposition où...
Alors, en fait, c'est évoqué dans... Il y a une salle qui est une très belle salle qui, où on peut se promener dans un jardin numérique qui évoque un peu tous les motifs de l'art géométrique et de l'art floral qui est développé dans les palais médiévaux. Et là, on écoute aussi, il y a un petit salon d'écoute. On peut voilà, s'asseoir. Il y a des effluves de jasmin qui sortent comme ça miraculeusement de cet espace d'exposition. Et on peut entendre de la musique arabo-andalouse aussi. Et la musique arabo-andalouse, aujourd'hui, elle est aussi transmise aussi bien par des musiciens juifs que par des musiciens arabes, comme on l'a vu, par exemple, dans le film El Gusto. Oui. On l'a découvert, et puis à travers ce groupe magnifique aussi. Donc oui, ça transcende les appartenances.
Les appartenances du passé. Et puis qui se sont, vous parlez d'El Gusto, je pense que la restitution qui s'est faite il y a quelques années, hein, avec ce film, et puis qui a été aussi de rassembler tous ces musiciens à Paris, dans une salle à Paris, c'était au Grand Rex, ça a été magique, il y avait des juifs et des arabes, la salle était blindée, il y avait vraiment, c'était deux soirs exceptionnels pour ces deux entités, qui se retrouvaient là, en paix, en harmonie, pour écouter ces chansons qui ont bercé leur vie, puisque c'était souvent des générations d'aînés qui venaient voir ce spectacle El Gusto, mais c'est important. Et voilà,
voit, là où c'est la génération des aînés, mais on voit qu'il y a un intérêt des générations
plus jeunes, nouvelles, oui, bien sûr.
Ce patrimoine, et dans l'exposition, on voit beaucoup d'artistes nostalgiques de cette époque, qui, à travers leur art, tendent à vouloir la transmettre à leur tour, maintenant qu'ils sont jeunes, mais aussi en âge d'avoir des enfants, par exemple, de vouloir transmettre aussi à leur progéniture et font tout un projet, que ça soit en art visuel ou un projet musical autour d'eux.
Dans une prochaine partie de notre rencontre, vous nous direz Quelle vocation a cette exposition en direction des publics, en direction de connaître la musique arabe. Certes, mais en même temps, on est dans un lieu quand même... c'est la première fois qu'en France, il y a une exposition de ce type-là, qu'on n'a pas vu dans cette grandeur, dans cette dimension à la fois artistique et puis dans la dimension du lieu, qui est quand même un des plus beaux lieux de la musique en France, cette Philharmonie de Paris. Donc c'était, oui. Voilà, sa place ici, elle a du sens, et vous nous l'expliquerez dans un instant. Peut-être s'arrêter sur les instruments de musique, parce que là aussi, l'exposition, elle a cette particularité aussi, c'est qu'elle est très vivante, hein, c'est pas une exposition, voilà, suite de panneaux en linéaire, avec une explication musicale, tout sauf ça, bah oui, ouais. Évidemment. Et comme tout sauf ça, elle est vivante, avec ce qu'on peut écouter, là, en branchant ses écouteurs ici et là, là où il y a les places pour le faire. Mais il y a aussi ce partage aussi des musiques avec, effectivement, ce qu'on va découvrir. Et puis j'ai vu des gens dans le public essayer un chapeau, se prendre en photo avec le chapeau, prendre un instrument de musique. Ah, oui, c'est ça. Donc voilà, c'est une dynamique assez intéressante, ça, cette dynamique vivante et puis interactive avec la musique.
Alors effectivement, les instruments sont très présents dans l'exposition. Alors à double titre, il y a des instruments très précieux. Donc on protège bien sûr derrière
des instruments anciens.
Voilà, on a reconstitué un grand, ce que j'appelle le mur du son arabe. C'est un grand mur d'instruments de musique qui montre la variété des formes, la diversité des pratiques, etc. On voit que l'instrument devient un véritable objet d'art, comme une sculpture, ou calligraphié, dessiné. Enfin, il y a vraiment une attention très forte accordée à la beauté de l'instrument visuel, en plus de la beauté de sa sonorité. Donc, déjà, on peut les admirer en soi, même sans les entendre jouer. Et puis, bien sûr, il y avait l'idée qu'on voulait que l'exposition soit participative et que les gens puissent vraiment s'emparer aussi de ces instruments. Donc, il y a des endroits aussi dans l'exposition où on peut en jouer. Il y a un espace pour les familles où on peut jouer de la darbouka, par exemple. Et là, je peux vous dire que depuis le démarrage de l'exposition, on a le droit à des petits concerts et des gens qui se rencontrent autour de l'instrument et qui font connaissance. Et ça, c'est rien de plus sympathique et convivial que ça. Et puis, il y a aussi, on a reconstitué l'orchestre d'Oum Kalsoum, donc le Tart, constitué de 5 instruments. Et là, effectivement, on peut apprendre à les manipuler, à placer les doigts sur les différents types d'instruments, en se coiffant d'un petit arbouche rouge. Et donc c'est l'occasion évidemment de garder un bon souvenir et d'immortaliser l'instant par un selfie.
Ah oui, c'est dans l'air du temps. Le selfie
et oui.
À la Philharmonie, à l'exposition Al Musica. Je rappelle que je reçois Véronique Riefel, pardonnez-moi, qui est commissaire de cette exposition. Et nous parlons aussi de Al Musica, voix et musique du monde arabe, qui est le catalogue très beau de cette exposition, coédité par Philharmonie de Paris et les éditions La Découverte. Alors, sur cette exposition, on va dire aussi qu'en parallèle à cette exposition, puisque la Philharmonie est un lieu d'exposition, mais aussi une somptueuse scène classique de musique, et il y a des concerts. Donc vous allez nous offrir aussi, nous proposer des concerts à voir et à entendre. À voir, c'est important aussi, puisque on voit des musiciens, on voit des instruments et on entend.
Oui.
Donc sur deux week-ends en mai, c'est cela.
Il y a déjà eu un week-end d'ouverture. Qui était très intéressant parce qu'on a pu voir vraiment la grande variété des musiques arabes. Ça allait de Anwar Ibrahim, Love and Revenge, 47 Soul, un groupe palestinien. Et puis aussi des concerts promenades dans le musée. Il y en aura à nouveau un en mai. Mi-mai, effectivement, avec... Alors là, on est très, très heureux et très fiers de les accueillir. C'est l'ensemble El Mausili, qui a un ensemble de musique arabo-andalou en Seine-Saint-Denis. Donc ça, symboliquement, c'était important. Ils vont jouer dans la salle Pierre Boulez, la grande salle de la...
Le 9-3 dans la salle Pierre Boulez.
C'est ça. C'est vraiment une première à l'occasion de cette exposition. Et puis, des concerts aussi de musique africaine, puisque il y a tout ce mélange aussi culturel, ces influences multiples. Et puis, dans l'exposition elle-même aussi, à certaines soirées, on proposera des moments de la musique live. Et des artistes live qui viendront se produire. Ce sera aussi en mai ou au mois de juin.
On aura l'occasion de le signaler aux auditeurs et auditrices de Beurre FM parce que c'est effectivement des rendez-vous musicaux exceptionnels que vous nous proposez là. Al Musica, voix et musique du monde arabe, c'est l'exposition qui se tient actuellement à la Philharmonie de Paris et ce jusqu'au 19 août, voix et musique du monde arabe. On retrouve Véronique Riefel dans un instant.
آخر مرة شو قلت لي بدك ضلي بدك فيك تفل زعلت بوحدة وما حللت إنه أنت هيدا أنت ترجع راسي رغم العيال والناس أنت الأساسي وبحبك بالأساس بحبك أنت ملا أنت رغم العيال والناس
Rencontre sur Beurre FM. Rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Véronique Riffel est l'invitée de Rencontre ce dimanche matin. Je rappelle que Véronique Riffel est commissaire de l'exposition Al Musica, Voix et musique du monde arabe. C'est cette exposition qui a démarré à la Philharmonie de Paris et qui se tiendra jusqu'au 19 août dans l'espace exposition. Et nous évoquions avant la pause que dans l'espace artistique et la grande scène, la salle Boulez, vous avez aussi organisé et prévu des concerts. Des concerts ont déjà commencé. Il y en aura d'autres qui suivront courant mai. Et puis le grand jour de la fête de la musique va résonner, la musique du monde arabe du côté de la Philharmonie, de ce que je vous entends, Véronique Riffel. Cette exposition et ce rendez-vous avec la musique du monde arabe à la Philharmonie, c'est aussi un rendez-vous pour le grand public, un rendez-vous pour les familles, vous y tenez beaucoup,
oui.
Parce que c'est aussi le lieu qui s'y prête, hein, quand on est l'esplanade de la Porte de Pantin, voilà, la cité pas loin, les jardins, le populaire pas loin, voilà, on a envie de... Vous auriez envie que tout ce monde-là rentre et puis découvre cette musique du monde arabe.
Oui, pour moi, c'était un aspect vraiment important. Et pour, d'ailleurs, les organisateurs de la Philharmonie. Parce que je trouve que c'est dommage. Certaines expositions ne sont pas assez conçues en amont pour accueillir des enfants. Or, je me mets à la place de parents qui ont envie le week-end de faire une activité en famille. Qu'est-ce que je vais faire de mes enfants, si l'exposition est un peu rébarbative, etc. Là, il n'y a pas besoin de se poser toutes ces questions. L'exposition est vraiment conçue de A à Z avec un parcours enfant. C'était vraiment cette idée d'être dans la transmission aussi d'une culture, de connaissances, d'un patrimoine pour les générations futures. Et donc, toutes les œuvres sont très accessibles. Et en dehors de ce parcours collectif, il y a toujours des espaces de jeu. Donc il y a le premier espace,
les éliges,
la tente, où là on peut faire un jeu de construction d'une ville arabe, on peut apprendre des comptines en arabe, on peut entendre des contes aussi, il y a une petite bibliothèque, spécialement pour les enfants. Il y a des jeux aussi, on peut reconstituer un instrument. Il y a une carte aussi du monde arabe, on peut s'amuser à replacer les cartes des différents pays sur la carte du monde. Donc il y a déjà tout cet espace là, Al-Khaïma. Et puis il y a aussi des darbouka sur lesquels les enfants peuvent jouer. Et puis effectivement après, donc quand on est dans la salle médiévale, il y a des éliges, donc on peut apprendre à les placer correctement pour reconstituer
les
motifs.
J'ai réussi.
Pardon ?
Je l'ai pratiqué, j'ai réussi.
C'est vrai, c'est bien. Bravo.
Non, mais c'est...
Oui, parce que les adultes que c'est vraiment... s'amusent.
Oui, voilà. En fait. C'était une manière de dire que les adultes aussi peuvent y jouer. Et puis, c'est vraiment très, très... Voilà, ça valorise. Voilà. Moi, je voulais aussi qu'on parle de la valorisation de ce que veut dire. Il y avait quelque chose de cet ordre-là dans cette exposition.
Oui.
J'imagine, quand vous l'avez conçue, c'est qu'on est aussi là pour valoriser ou réhabiliter, disons cela comme on l'entend, mais... Voilà, la culture arabe, la musique du monde arabe aujourd'hui dans la société française.
Oui, en fait, vraiment tout part de là. C'est-à-dire, vous disiez effectivement que c'était une exposition qui prenait place pour la première fois en France et pas n'importe où, à la Philharmonie, donc dans ce temple, effectivement, la musique qui est plutôt identifiée comme temple de la musique classique. Mais... dès le départ, l'idée de Laurent Bey, son directeur, c'était vraiment de l'ouvrir le maximum à toutes les cultures musicales. Et donc, et effectivement, proposer pour la première fois en France et même en Europe une exposition sur les musiques arabes, c'est un geste politique fort. C'est de prendre le contre-pied de toutes les représentations négatives sur le monde arabe et c'est de dire, bah voilà, le monde arabe, c'est aussi ça.
Et c'est aussi avant, en France.
Avant tout ça, et elles existent en France et elles s'épanouissent en France et elles sont une composante essentielle de la culture française d'aujourd'hui et depuis déjà le siècle dernier. Donc c'était vraiment cette idée. Et que les donc et aussi que les publics se mélangent, se côtoient, que ce soit autant ouvert à un public de culture arabe qui justement soit fier de cette culture, puisse le transmettre à ses enfants et donc elle est en famille avec les grands-parents, les parents, les enfants. Et puis pour les personnes qui sont plus néophytes, qui ne connaissent pas, bah découvrir autre chose que ce qu'on voit à la télévision.
Alors, dans tous ces espaces, il en est un qui porte peut-être ce que nous avons, ce que nous vivons, nos auditeurs, auditrices, et d'autres qui sont ce qu'on appelle les immigrations, les enfants de l'immigration, la deuxième génération, la troisième génération. Alors là, les générations sont plus à compter, mais en tout cas, elles s'imprègnent de leur histoire transmise, et c'est l'espace que vous avez appelé le Barbès Café. Le Café Barbès.
Après le Barbès Café,
le Café Barbès, avec une restitution comme ça, une installation d'un café, du Scopitone, de Slimane Azam qu'on va entendre, Idir il y a 25 ans et d'autres. Ça, c'était
les dominos.
Les dominos, bien sûr. Les joueurs de dominos.
Les gens font des parties de dominos, ouais, c'est vrai. Hein. Dans l'exposition, il y a des gens qui restent longtemps, du coup. Prévoyez un long moment si vous venez. Enfin, vous allez venir, mais... Mais oui, et puis il y a ces œuvres de Baïa aussi qui sont si belles.
La peintre,
on voit pas assez. Là, on a réussi à, grâce à un prêt du musée Cantini de Marseille, à avoir de très beaux Baïa qui représentent des instruments de musique, des femmes musiciennes. C'est vraiment avec des couleurs éclatantes. C'est à la fois un mélange de cultures berbères. Arabe, perse aussi, dans la façon de dessiner les visages.
Dans la flore, oui.
Et dans la flore, c'est vraiment très, très beau. Et puis, ces photos, des portraits Harcourt, très belles aussi. Des photos anciennes, des affiches.
Des
aussi,
affiches anciennes.
Des affiches pâtées, agrandies, pour les magnifier, donc sur tout un mur du fond.
Les affiches pâtées qui étaient les affiches des 45 tours ou même des 33 tours à l'époque de tous ces artistes des années 60, des chanteurs de l'exil. C'est un tout cette exposition, Véronique Riffel. Il y a du cinéma, il y a de la musique, c'est l'essentiel. Il y a du cinéma, il y a de la photo, on y prend un grand plaisir vraiment et on peut trouver des tas de choses différentes qui restituent cette musicalité du monde arabe.
Oui, c'est une exposition où on s'amuse beaucoup, on apprend en s'amusant, on découvre, on redécouvre pour certains. On est replongé dans des ambiances qu'on a connues à différentes époques, je pense, en fonction du bagage culturel des uns et des autres. Moi, par exemple, ça sera peut-être plus la dernière salle, puisque j'ai vécu en Égypte, et on retrouve un peu l'ambiance sonore d'une ville comme le Caire, où on entend un moment de l'électro-shahabi qui s'échappe d'une voiture, du transistor d'une voiture, où on entend un moment une manifestation, où on entend au loin les résonances d'un mariage. Et puis voilà, cet électro-shahabi quand même très obsédant. Et voilà. Donc chacun, je pense, que peut y retrouver son Orient, son monde arabe, sa musique arabe. Et la musique arabe, évidemment, n'est pas du tout isolée de toutes les autres pratiques. Elle va avec la danse, elle va avec le cinéma, plus qu'une autre encore. Elle va avec tout un ensemble culturel qu'on a voulu restituer. Et donc si ces espaces sont si accueillants et conçus pour le visiteur, c'est parce qu'on a voulu aussi cette attention portée au confort du visiteur, elle est celle qu'on ressent quand on est accueilli dans un pays arabe. On ressent tout de suite l'hospitalité. Ça, c'est aussi un peu un lieu commun, mais c'est important de le rappeler pour le coup, il est vrai, il correspond à une réalité, c'est qu'on se sent toujours, en tant qu'invité, qu'on a une place de choix, qu'on ne va pas nous mettre dans un coin comme ça, mais qu'on va veiller à ce qu'on se sente bien. Et donc c'est une exposition où on a voulu faire en sorte que le visiteur se sente bien.
Alors dans cette exposition, on va repartir en arrière, c'est-à-dire à l'entrée de l'exposition, on est accueilli, on n'entre pas encore dans le lieu d'exposition, mais on est accueilli par un mur de musiciens, dont le nom m'échappe, mais vous allez tout de suite me le dire, qui est un groupe. Hein. Oui, un groupe de musique, c'est des rappeurs, c'est qui ont fait évoluer toute la musique du monde arabe. Alors, parlez-nous en fait, cette séquence d'ouverture, elle est importante.
C'est une séquence très intéressante. En fait, c'est un peu deux challenges qui se répondent l'un en face de l'autre, avant même qu'on rentre dans l'exposition, mais à l'entrée. Il s'agit donc, il y a une chronologie du monde arabe en 25 dates par François Reinhardt, qui avait déjà consacré tout un livre à l'histoire du monde arabe. Donc c'était que les personnes qui connaissent moins bien l'histoire du monde arabe, ou les enfants et autres, et adolescents, aient des repères pour savoir dans quel monde ils vont évoluer à travers l'exposition. Donc il y a ça. Et le deuxième challenge, c'est non pas plusieurs, mais un artiste saoudien, oui, parce qu'il se démultiplie,
c'est vrai.
Il se démultiplie, on a l'impression qu'il y a tout un groupe, mais en fait c'est une seule et même personne, même s'il y a bien sûr toute une équipe autour de lui dans ce projet, qui réussit le challenge de nous faire voyager à travers l'évolution des musiques arabes. Donc là, ça s'appelle The Evolution of Arab Music, en 6 minutes. Et en 6 minutes, par sa voix et donc par le beatbox, c'est-à-dire il imite les instruments de musique avec sa voix, il va passer en revue 42 morceaux de musique, tous très connus, tous des tubes. Ça va de Lama Beda, ce chant andalou, il passe aussi par Khaled, Didi,
Yara.
C'est intéressant de voir
aussi,
faire ça aux diens, connaît bien le rail comme ça. Et puis, en même temps, c'était un tube internationalement connu. Donc, et il passe par des figures comme Asmahan, comme Farid Al-Atrash, Sayed Darwish avant ça, Kalsoum. Il s'attaque même comme ça à des monuments, Fayrouz, et même des starlettes de la pop libanaise. Ou des pop stars marocaines, des rappeurs, voilà, ils brossent tout ce panorama sonore du monde arabe, et c'est vraiment une belle performance.
Véronique Riffel, vous en parlez passionnément, c'est dire depuis toujours, vous nous le rappeliez en début d'émission, votre passion que vous aviez pour le monde arabe. Je rappelle cette exposition Al Musica, voix et musique du monde arabe, a commencé il n'y a pas très longtemps, le 6 avril, et ce jusqu'au 19 août, avec des concerts. On peut inviter les auditeurs à se rendre sur le site de la Philharmonie pour en savoir plus. En tout cas, on se fera, nous, à Beurre FM, évidemment largement écho de ce rendez-vous avec Al Musica. On va parler de voix et musique du monde arabe. On a parlé de voix et musique du monde arabe, le catalogue de l'exposition, coédité par la Philharmonie, et les éditions La Découverte. Il ne nous reste plus qu'à dire, peut-être, les horaires. C'est du mardi au jeudi de 12h à 18h, le vendredi de 12h à 20h, et en tout cas, le samedi et dimanche, la journée est plus longue, puisque de 10h du matin à 20h, vous pouvez voir l'exposition et puis entrer dans tout cet espace artistique, musical, et puis de séquences que vous pouvez entendre. Dès que vous entrez, d'ailleurs, on vous confie des écouteurs, ça fait partie de l'exposition.
Entendre sans casque, et il y a des sons qui nécessitent le casque pour pas faire toute une cacophonie, et pour que chacun puisse écouter les choses à sa guise.
À sa guise, et puis en extrait, puis y revenir et y repartir. Vous auriez d'autres choses à ajouter? Vous en parlez passionnément, Véronique Riffel. D'autres rendez-vous avec Al Musica?
Oui, il y a aussi des ateliers de pratique musicale pour les enfants. Donc je me dis que ça peut intéresser aussi les parents, qu'ils aient aussi, s'ils ont envie d'approfondir après tout ce qu'ils ont pu voir dans l'exposition. Donc je les invite vraiment aussi à inscrire leurs enfants et à découvrir le riche programme sur le site internet, puisqu'il va être enrichi au fur et à mesure.
Et Al Musica, le livre Voix et musique du monde arabe, coédité par la Philharmonie de Paris et La Découverte, vous en avez fait une grande introduction, et puis il y a aussi des contributions là de différents spécialistes. Pour le coup, dans le livre, on rentre vraiment dans quelque chose d'approfondi du point de vue de l'ethnomusicologie dont je parlais tout à l'heure, parce que
vaste.
Le livre, voilà, on peut pas tout mettre dans l'exposition, mais le livre nous renvoie vraiment à plus de connaissances sur le livre.
C'est pour prolonger le voyage. Et puis à la fin de l'exposition, il y a un petit salon d'écoute et de lecture où on peut découvrir différents livres aussi qu'on retrouve après à la librairie. Et je vous invite vraiment aussi à découvrir l'univers, par exemple, de Lamia Ziadé, cette artiste qui a écrit « Aux nuits, aux mes yeux », comme le Layali, qui raconte la vie des grandes divas du monde arabe. C'est passionnant. Puis il y a beaucoup...
Ah, puis il y a une jolie démonstration du piano oriental, oui. Aussi. C'est aussi important, ça.
Le piano oriental de Zaina Birachem, oui. Qui est un piano bilingue, qui peut aussi bien jouer la gamme tempérée que le quart de ton.
Ah oui, non, ça c'est... Vous êtes une spécialiste aussi. Merci infiniment,
merci
Isabelle Riffel,
d'être
venue ce dimanche matin nous présenter Al Musica. On aura l'occasion d'ici, durant plusieurs semaines, de revenir sur ce rendez-vous vraiment exceptionnel à la Philharmonie de Paris. Al Musica, je le rappelle, qui se déroulera jusqu'au 19 août. Et puis le 21 juin sera un temps fort aussi, fête de la musique arabe du côté de la Porte de Pantin. Ça sera un joli rendez-vous aussi. Merci encore. On se retrouve pour ma part la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de rencontre. Au revoir à tous, au revoir à toutes. D'ici là, passez une bonne semaine.
حبيبي يلي جنبي يلي ساكن جوه قلبي يا حبيبي يلي جنبي يلي ساكن حيبان المخبي من غرامي يا حبيبي هو اشتكي لك وتواسيني حسنك الباهي فتني يا حبيبي والهوى خد عقلي مني انت الهامي تحني وترضى عني وتراعيني يا حبيبي تحلى أيامي ويهنى لي نصيبي وترى عيني يا حبيبي تحلى أيامي وإهنى لي نصيبي
sur Beurre FM.